Coraline Pochat.
1, 2, 3, 4 métros en ville de Lausanne. C'est une idée qui fait son chemin chez les passionnés de mobilité, alors que le M3 n'a même pas encore vu le jour. La quatrième ligne pourrait utiliser l'actuel tracé du tunnel ferroviaire Tridel, aujourd'hui destiné au transport des déchets de l'usine d'incinération. Agathe Birden nous dressera le portrait de ce potentiel quatrième métro. La Suisse est devenue un pays de transit et non plus une terre d'accueil pour les réfugiés. C'est en tout cas l'avis du secrétaire d'État aux migrations suite à la baisse du nombre de demandes d'asile enregistrées cette année. Mario Gattiker l'a dit dans la presse alémanique hier, une baisse jamais observée depuis 7 ans, mais qui ne signifie pas la fin de la crise. On l'entendra dans ce journal. Il pourrait décrocher la palme de la longévité au Japon. Le premier ministre Shinzo Abe a relevé son pari électoral après des élections législatives remportées hier. La coalition du premier ministre reste majoritaire, un tremplin pour un troisième mandat, mais aussi pour concrétiser ses réformes. Et côté sport, match nul du FC Sion hier soir 2-2 face à la lanterne rouge Lugano. Conséquence, le renvoi de l'entraîneur italien Paolo Tramezzani. Et puis Roger Federer qui se prépare à jouer à la maison. Les Swiss Indoors de Bâle, ça commence aujourd'hui. Un quatrième métro à Lausanne alors que la troisième ligne n'est pas encore construite. Certains y pensent déjà. Les passionnés de mobilité réunis au sein de la CITRAP, la communauté d'intérêt pour les transports publics, ont imaginé une nouvelle ligne de métro où, eh bien, sur le tracé du tunnel ferroviaire Tridel. Cet ouvrage relie aujourd'hui Sébeillon à la Sala sur les hauts de la ville et sert au transport des déchets de l'usine d'incinération. Mais il pourrait aussi transporter des passagers. Agathe Birden.
Ce tunnel de près de 4 km passe sous les quartiers de Chaudron, de la Pontaise, de Bellevaux, comme autant de stations de métro potentielles. Pierre Bonjour, l'un des concepteurs de cette idée.
Depuis son inauguration, on imagine qu'un jour, il pourrait transporter des passagers. Donc il s'agit d'une idée qui pourrait être réalisée à moyen terme, dans les années 30. Actuellement, ça permet donc d'acheminer les déchets. Et comme les transports de marchandises sont relativement peu nombreux, il est tout à fait possible d'y faire aussi du transport de passagers. Ça permettrait de faire une traversée est-ouest dans le haut de la ville. Il y a beaucoup de pendulaires actuellement qui habitent dans l'est lausannois et qui vont travailler dans l'ouest lausannois.
Le tunnel Tridel s'appelle en réalité le tunnel Olivier Français, du nom du conseiller aux États vaudois qui l'a initié. En faire un ouvrage utilisé pour le transport public n'est pas complètement incongru selon lui.
C'est bien qu'il y ait des projets qui soient mis sur la table et qui provoquent tout simplement l'autorité politique pour penser à son futur. Maintenant, ces priorités dépendront bien sûr des activités, c'est-à-dire les places de travail et les zones de logement, puisqu'il faut vraiment que ça soit en adéquation pour qu'on ait le seuil critique, pour qu'on ait un équipement qui soit utilisé, en tout cas une quinzaine d'heures sur les 24 heures. Alors, il faut que les autorités réfléchissent à l'après M3. Et les options sous-sol sont pour moi très favorable parce qu'il dégage de l'espace urbain au profit de la population résidente.
Rappelons quand même qu'avant un hypothétique futur M4, il y aura déjà le M3 qui reliera la gare de Lausanne à la Blécherette. Sa mise en circulation est prévue en 2025.
Et cette idée sera présentée publiquement ce soir par les membres de la CITRAP. L'association est également en contact avec les autorités politiques pour leur faire part de leur projet. De Lémont, la Rouge porte à nouveau son nom. L'ancien bastion de la gauche avait perdu ses couleurs il y a de cela 10 ans. Or, hier, à l'issue des élections communales dans le Jura, Parti Socialiste et Gauche Alternative ont repris la majorité à l'exécutif et au législatif. On écoute la conseillère communale socialiste, Muriel Machiberda.
On a bien travaillé durant ces 5 dernières années. Ça s'est vu, notamment, je pense, au travers, par exemple, de la conception du PAL, hein, le plan d'aménagement local, où on était minorisé. On a fait un grand travail dans les commissions, au niveau du groupe d'accompagnement du GAPAL. Donc, dans toutes les démarches participatives que la ville nous a offertes, on y a intégré des candidats. On les a fait travailler. Ils ont travaillé de manière vraiment, de manière constructive. On a vraiment mis le paquet dans toutes les démarches participatives de la ville. Puis les gens ont vu le travail qu'on a mené depuis ces 5 dernières années, malgré le fait qu'on n'ait pas la majorité. Et puis aujourd'hui, ben, on est plébiscité. On n'a pas fait vraiment une politique d'opposition, hein, contrairement à ce qu'on pourrait faire quand on n'a plus la majorité. Mais ça a payé, j'entends, dans plusieurs domaines, notamment dans mon domaine au niveau du département d'énergie. On a toujours misé sur le côté avant-garde. Hein. On est vraiment pionnier dans beaucoup de secteurs à Delémont. L'énergie en fait partie. Et puis, bah, c'est cette reconnaissance qui est récompensée aujourd'hui.
Des propos recueillis par Gaëlle Klein.
18 à 19 000 demandes d'asile pour cette année en Suisse. 20 000 pour l'année prochaine.
Oui, ces chiffres, le secrétaire d'État aux migrations, Mario Gatticaire, les a commentés hier dans la presse alémanique. Ils illustrent une baisse jamais vue depuis 7 ans. Or, la crise des migrants n'est pas pour autant terminée, selon Stéphane Frey, porte-parole de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés. Le problème est juste repoussé.
Ce qu'il faut constater, c'est que la Suisse, en premier lieu, est le pays qui profite le plus des accords de Dublin. C'est toujours la Suisse qui renvoie le plus grand nombre dans d'autres pays. Et la Suisse aussi profite de cette politique de barrage qui est dirigée par l'Union européenne. Donc on n'a pas une raison pour se féliciter. Les gens qui sont en danger, c'est le même nombre, mais ils sont dans des situations de plus en plus épouvantables, soit en Turquie, soit en Libye, soit sous le Sahara. Donc le problème n'est pas résolu tout simplement par le fait qu'on a moins de requérants d'asile en Suisse.
Des propos recueillis par Guillaume Ray. Et puis, ces scènes de panique hier soir à Flums, dans le canton de Saint-Gall. Un jeune homme de 17 ans a attaqué et blessé plusieurs personnes avec une hache sur la place de la Poste, puis dans le magasin d'une station-service. L'auteur a été appréhendé. Selon la police, il aurait agi seul et rien ne permet de conclure à un acte terroriste. Aucun autre détail n'a été donné, ni sur l'auteur des faits, ni sur l'état des victimes.
Pari électoral gagné pour le Premier ministre japonais.
La coalition de Shinzo Abe conserve en effet sa majorité des deux tiers des sièges à la chambre basse du Parlement. Une victoire qui assure au Premier ministre un troisième mandat. Au pouvoir depuis 5 ans, il pourrait donc continuer jusqu'en 2021 et remporter la palme de longévité pour un chef de gouvernement japonais. Mais aussi l'occasion pour Shinzo Abe de réformer la constitution pacifiste et d'adopter une attitude plus ferme envers la Corée du Nord. À Tokyo, George Baumgartner.
Shinzo Abe veut que la constitution pacifiste, écrite d'une main américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, reconnaisse l'existence de l'armée japonaise et redonne au Japon le droit de belligérance. Le Premier ministre veut réviser son article 9 qui interdit au Japon le recours à la guerre pour résoudre des conflits. Shinzo Abe a déjà réinterprété la constitution pour permettre aux forces japonaises de participer à des opérations à l'étranger aux côtés des États-Unis. Une moitié des Japonais tiennent toujours à leur constitution pacifiste, car à leurs yeux, elle empêche leurs dirigeants de céder à la tentation de la guerre. En ce qui concerne la Corée du Nord, Shinzo Abe est partisan, comme Donald Trump, d'une intervention militaire si nécessaire. Le Japon dépend aujourd'hui pour sa sécurité du parapluie nucléaire américain. George Angartner, RTS Info, Tokyo.
95% de oui en Lombardie, 98% en Vénétie. L'approbation en faveur d'une plus grande autonomie des deux régions italiennes ne fait plus de doute. Les deux référendums consultatifs sont désormais la preuve que Rome doit négocier avec le grenier du pays. La Lombardie et la Vénétie présentent un solde fiscal de quelque 70 milliards d'euros. Elles veulent aujourd'hui récupérer une partie de cet argent. L'autonomie revendiquée dans le respect des lois italiennes s'inscrit dans cette volonté.
Le rendez-vous tennis du jour, c'est l'édition 2017 des Swiss Indoors de Bâle et la présence de Roger Federer.
Et oui, le numéro 2 mondial pour qui jouer à la maison est une priorité, mais aussi une opportunité, car Roger Federer peut encore viser la première place mondiale. Le forfait de Rafael Nadal lui offre la possibilité, en cas de victoire, de revenir à 1460 points de l'Espagnol. Alors quelques points et deux tournois restants, Paris-Bercy et les Masters à Londres. Toutefois, pour l'instant, le Balois ne fait pas une fixation sur la possibilité de redevenir numéro 1 de la planète tennis. Il l'a dit à Hervé Borsier.
Roger Federer, échauffé par sa première tentative ratée qui l'a poussé à jouer à Montréal et à provoquer sa blessure au dos, ce qui a prétérité la suite de sa saison, il ne veut donc pas brûler les étapes. Il est donc pour l'instant concentré sur l'épreuve baloise.
Le focus pour moi n'est pas vraiment là-dessus. La priorité, c'est de bien jouer ici à Bâle, préférable forcément de gagner. Et aussi après Londres, même si je joue bien ou je gagne les deux, qui est très très difficile à faire. C'est comme mon secondaire pour l'instant. J'ai tout essayé pendant la saison, mais j'ai raté trop de tournois pour être dans une meilleure position. Plus lui, il a extrêmement bien joué aussi toute la saison. Et il mérite où il est parce que il a plus joué que moi et il a aussi quelquefois mieux joué que moi. Voilà.
Roger, comme d'habitude, est donc fair play, surtout quand il s'agit de Rafael Nadal. Entre eux, il y a l'amitié et le respect. Dans la rivalité.
On n'est pas à la boxe ici, je veux dire. C'est que je peux prendre ma revanche physiquement sur lui. On peut être copain, mais aussi rival en même temps, tout le temps. Et je pense que c'est important que cette rivalité, elle continue à être là. On l'a vu aussi après la finale à Shanghai, il n'était pas content de perdre. Et je respecte cette situation, même s'il y a des photos qui ont passé où bah, c'est rigolo et tout ça, mais pour la plupart, il était quand même plutôt déçu de sa performance et tout ça. Et ça doit être un peu être comme ça.
Roger Federer est un compétiteur. S'il remporte Bâle, la course à la place de numéro 1 mondial sera relancée entre les deux dominateurs de la saison.
Les Swiss Indoors de Bâle qui débutent donc aujourd'hui. Au menu, le premier tour du Suisse Marco Chiodinelli face au néerlandais Robin Haase, à suivre dans nos rendez-vous d'information et sur RTS Sport dans la soirée. Énième départ au FC Sion. L'entraîneur de la première équipe du club, Paolo Tramezzani, a été remercié hier soir avec effet immédiat. L'Italien a pris la porte après le nul 2-2 des Sédunois face à la Lanterne Rouge Lugano. Le président Christian Constantin a donc actionné le coup près. Les précisions d'Alain Thévaux.
Avec un bilan de 3 victoires, 4 nuls et 5 défaites, le bilan de Paolo Tramezzani est maigre. L'entraîneur italien avait été engagé pour mener le FC Sion vers les sommets, mais l'équipe sédunoise n'occupe que le 7e rang. L'Italien ne paye pas seulement ses mauvais résultats en championnat, mais également les éliminations subies lors du tour préliminaire en Europa League et lors des 16e de finale de la Coupe de Suisse face à Stade Losanouchi. En acceptant la proposition de Christian Constantin, un président réputé pour ses fréquents changements d'entraîneur, Paolo Tramezzani savait à quoi s'attendre.
Je préfère avoir affaire avec des personnes ambitieuses qui ont du caractère. J'avais accepté ce travail aussi pour Christian Constantin.
Paolo Tramezzani reste donc officiellement salarié du FC Sion. Il mystère est sous contrat jusqu'en 2019 et certainement bénéficie d'une clause qui le protège en cas de licenciement abrupt. Les deux parties devront donc trouver un accord à l'amiable.
Et en Super League, d'autres matchs se jouaient hier. Le Lausanne Sport a réussi une excellente opération en s'imposant 4-0 à Saint-Gall et victoire de Young Boys à Lucerne 1-0.
Taxer les véhicules les plus polluants pour améliorer la qualité de l'air.
Alors on connaît cette démarche, notamment à Paris. Elle fait désormais son entrée à Londres d'un montant de 10 livres sterling, soit 13 francs. La nouvelle taxe s'imposera aux véhicules les plus anciens et les plus polluants. Un émolument supplémentaire qui s'appliquera de 7h à 18h pour tenter de réfréner les phénomènes de pollution. Le maire de la capitale britannique l'a d'ailleurs déclaré. Il faut assainir cet air mortel. Selon une étude réalisée en 2015, près de 9500 londoniens meurent chaque année de manière prématurée, diagnostique la pollution.
C'était le journal de Coraline Pochard. Merci, vous êtes sur la première, 8h12.